Les arènes de l'écologie sur Aligre FM.
Tous les mercredis de 19h à 20h.
Le combat du siècle.
Planète contre humanité.
L'enjeu est énorme, on sait déjà que la planète finira par gagner.
Mais combien de temps tiendra encore l'humanité?
Eh bien bonsoir, chers amis, auditeurs, bien, elle va tenir encore une bonne semaine de plus, cette humanité. Mais bon, on peut dire qu'elle est quand même un petit peu agressée par plein de choses, mais on n'en voit pas les conséquences immédiatement de tous ces désordres. Si ce n'est si on habite au Liban ou en Iran. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Alors ce soir, nous, on pourrait parler effectivement de ville. On va parler de ville, on va parler plutôt de gestion foncière. Alors on est après les municipales. Alors là, la gestion foncière, c'est fondamental dans une politique des villes. C'est souvent, on dit que c'est le premier levier de la politique municipale. Et pour ce faire, on a deux invités, des spécialistes du sujet. Alors, Zoé Rimbaud de l'Institut de la Transition Foncière, qui va nous expliquer ce que c'est cet institut, déjà, pour commencer. Et puis, Paul Citron, qui, lui, est géographe urbaniste, qui vient de publier un livre collectif des villes au mieux, occupation temporaire des tiers-lieux solidaires. Alors bon, c'est vrai que c'est aussi un clin d'œil, puisqu'on est nous-mêmes abrités dans un tiers-lieu, puisque le Césure... Paul, tu nous expliqueras aussi ce que c'est qu'un tiers-lieu, parce que tous nos auditeurs ne savent pas. Puis c'est pas si vieux que ça comme concept. Et puis, on aura aussi ce soir Caroline Léninger, alors j'espère que je prononce bien, qui est géographe également, mais du comité national, CNFG, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire au juste?
Comité national français de géographie.
D'accord, donc effectivement, c'est la section française de l'Association mondiale des géographes, c'est bien ça?
C'est ça.
Et qui n'a que 120 ans, si je me souviens bien.
Oui, c'est déjà pas mal.
D'accord. Mais bon, pour commencer, on va aussi laisser la parole à Théo, parce que Théo, comme d'habitude, est là pour nous donner la bonne nouvelle de la semaine. Alors, je ne sais même pas de quoi il s'agit, mais je te passe le micro, Théo.
Bah écoute, j'ai gardé un peu de suspense. Bonsoir à tous, comme d'habitude, c'est l'heure de notre bonne nouvelle de la semaine, effectivement, parce que ça fait du bien, ça donne le sourire, en plus c'est le printemps, il fait beau, c'est merveilleux. Alors il y a quelques semaines de ça, on avait parlé des différents programmes de reforestation en Afrique pour lutter contre la dégradation des terres et l'avancée du désert, et ce soir on va revenir sur ce sujet, mais cette fois-ci on change de continent pour aller en Asie, et plus précisément en Chine. Parce que la Chine aussi est confrontée depuis plusieurs décennies à l'avancée du désert, et notamment celui du Taklamakan dans l'ouest du pays, connu pour être un des déserts les plus arides du monde. Alors face à ça, les autorités chinoises ont réagi et ont lancé en 1978 un projet titanesque, celui de ceinturer l'entièreté du désert avec une grande muraille verte, des arbres, concrètement, sur plus de 3000 km. Et je vous parle pas d'une petite muraille, hein. Les autorités n'ont pas fait les choses à moitié, puisqu'on parle de 66 milliards d'arbres plantés en l'espace de 50 ans. À titre de comparaison, en France, l'IGN, donc l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière, estimait en 2024 qu'il y avait 11,3 milliards d'arbres. Ça donne quand même une idée de la taille du projet. Et aujourd'hui, ces résultats dépassent largement les attentes, puisque non seulement l'avancée du désert est endiguée, mais surtout le Taklamakan est devenu un puits de carbone. En effet, une étude réalisée en 2024 démontre que grâce à ces arbres plantés, ce désert, l'un des plus grands du monde, absorbe désormais plus de CO2 qu'il n'en émet. Alors, soyons honnêtes, pour l'instant, c'est pas gigantesque non plus, hein, puisque l'étude en question nous explique que la région a absorbé entre 2004 et 2017 2 millions de tonnes de CO2 en plus que ce qu'elle a rejeté. C'est pas énorme, mais il faut quand même noter qu'entre-temps, la ceinture verte s'est encore étendue et qu'elle se porte bien. Elle se densifie, elle s'étend, et puis au-delà des chiffres, ça démontre quand même un point capital. Quand on met en place les politiques appropriées et qu'on y met les moyens nécessaires, on peut changer la situation drastiquement. Si on est capable de changer l'un des plus grands déserts du monde en puits de carbone, je pense qu'on est largement capable de protéger nos forêts, nos océans et tout le reste. Il suffit juste d'y mettre les moyens. C'était notre bonne nouvelle du soir, une bonne nouvelle à 66 milliards d'arbres, c'est quand même pas mal. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et bonne soirée.
Eh bien, merci Théo. Donc effectivement, une bonne nouvelle pour les Chinois. Donc c'est vrai que la question de la discipline aussi en Chine n'est pas tout à fait la même que par chez nous. Je ne sais pas comment ça se passe. Bon, on ira y faire quelques... Ça mériterait de certaines vérifications. Alors moi, je vais vous parler d'un autre point. Alors c'est pas tout à fait un... Donc normalement c'était Ben qui devait nous faire ce commentaire, mais bon, c'est un anniversaire, on est le 25 mars, et c'est l'anniversaire de quoi? Est-ce que chacun ici autour de la table se souvient qu'est-ce qui s'est passé le 25 mars récemment? Il y a 3 ans. Eh bien, il y a 3 ans, c'était Sainte Soline. Et c'est quand même assez frappant de voir que cet événement qui a quand même été assez traumatisant pour beaucoup a un peu tendance à glisser de nos mémoires comme de l'eau sur les ailes d'un canard. Alors,
est-ce que tous les auditeurs de Aligre savent ce que c'est que Sainte-Soline?
Ah, c'est pas sûr après tout.
C'est pas qu'une fête chrétienne?
Non, 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 effectivement. Sainte-Soline, c'était les grandes manifestations contre les méga-bassines, mais surtout, ça a été marqué par une répression féroce avec un nombre de plusieurs dizaines de blessés, et pas des blessés légers, hein, des yeux éborgnés et autres. Alors je vous dis ça parce qu'il y a aussi le sujet était tellement frappant que ça a percuté, on va dire, c'est le terme aussi dans l'imaginaire, et il y a des... Alors, comment on dit, les gens du théâtre, du spectacle vivant, qui viennent en faire un spectacle qui s'appelle « Je me souviens de la Terre », donc qui est mis en scène par Myriam Marzouki, mais une pièce de théâtre écrite par Sébastien Le Potvin, alors qui s'est jouée au théâtre intercommunal de l'Azimut à Châtenay-Malabry, le 10 mars et le 11 mars, mais que vous pourrez voir dès ce soir si vous courez vite. Caroline, toi qui prendras un train bientôt, si tu descends jusqu'à Marseille, tu peux le voir, surtout demain, quoi, le 26. Et puis, par contre, il revient à Paris pour pratiquement une semaine, du 22 au 30 mai, au Théâtre de la Concorde à Paris, et puis qui se jouera également sur la scène nationale de l'Essonne à Évry. Du 12 au 13 novembre. Et je ne vous cache pas que c'était... Donc moi, j'étais le 10. Alors c'est vrai que j'ai mis un certain temps avant de connecter le récit du théâtre et puis deviner que c'était de ça dont on parlait. Et c'était frappant de voir que le jeune public qui était là, parce que les profs les avaient amenés, hein, s'ils n'étaient pas venus spontanément, était un peu largué. Et ça faisait penser qu'il est quand même très important de cultiver les mémoires, de faire passer les messages. Et effectivement, cette question du droit du sol, de la destinée qu'on donne au terrain. Alors là-bas, on est en plein monde rural, mais ça nous commence à se mettre en résonance avec le sujet de ce soir, qui est la question du foncier urbain, et qui va nous passionner après la pause musicale. Mais d'ici là, naturellement, Caroline Léninger, vous allez nous parler de la nuit de la géographie. Les géographes sont noctambules maintenant.
Eh oui. Donc la nuit de la géographie, c'est un événement qui est organisé partout dans le monde, qui aura lieu le 10 avril et qui mobilise toute la communauté des géographes, mais aussi au-delà. L'objectif est de sensibiliser la population, le grand public, mais aussi parfois des publics spécifiques, aux enjeux de la géographie, qui sont des enjeux sociétaux. Alors cet événement existe depuis 2017. Il a été initié au départ par le CNFG et plus spécifiquement par Antoine Leblanc, mais ça a eu un succès phénoménal. Et aujourd'hui, c'est repris partout en Europe, sous l'égide de Géo, qui est une association géographique, mais à l'échelle européenne. Et puis l'UGI dont vous parliez au début, qui est l'Union géographique internationale. Et en fait, ça regroupe plein de manifestations différentes partout en France. Alors, c'est souvent très ludique. Ça peut être, par exemple, une balade urbaine, comme à Angers, ou, eh bien...
À Paris, je crois qu'il y en aura une aussi, du côté de l'Ouest parisien, du côté de Ballard.
Oui, il y a aussi à Paris, il y a, par exemple, un mapathon. Organisé par des ONG autour des enjeux de la solidarité des organisations humanitaires internationales. Voilà, il y a des choses un peu partout en France. Parfois, certains événements sont en ligne. Et ce qui est intéressant, c'est que n'importe qui peut participer, donc toute personne.
Parce
que
c'est pas réservé aux géographes.
Pas du tout. L'objectif, c'est d'attirer toute personne qui serait intéressée. Et c'est souvent ludique. C'est pas des choses qui sont académiques, pompeuses. Voilà, l'objectif, c'est de faire vivre un moment.
Alors, c'est quoi ? Ça va être une découverte des paysages urbains avec une lecture par... Bon, les géographes sont spécialistes de la lecture des paysages, c'est bien connu, dans les facs de géo. Souvent, c'est passionnant de les écouter, nous décrire un peu l'histoire des lieux.
Oui, mais c'est, je pense que, enfin, souvent, ce qui est préféré, ce qui est privilégié, c'est des choses qui sont participatives. Alors, ça peut être des balades urbaines, par exemple, des balades sensibles. Ça peut être, c'est pas des conférences plénières. C'est plutôt l'idée de s'imprégner des lieux, de découvrir des usages. Parfois, on passe dans des lieux et on ne les observe pas parce qu'on passe, on a un train à prendre, un bus à prendre.
Donc, les fonctionnalités de la ville.
Oui, mais parfois, par exemple...
Quand on est en ville, parce que ça peut être aussi à la campagne, la géo.
Oui, mais ça peut être aussi, par exemple, la nature en ville. Voilà, donc parce qu'il y a de la nature en ville, ça peut être... En fait, l'idée, c'est de découvrir la ville sous d'autres angles que ce qu'on ferait. Ce n'est pas une visite guidée type historique pour raconter. Ce n'est pas une conférence en ligne. C'est quelque chose orienté vers la ville qui interpelle en fait tout habitant. Parce qu'en fait, on est tous géographes.
Alors ça, donc, c'est une bonne nouvelle, ça.
Voilà. Ben, parce que dans notre vie de tous les jours, on construit tous des savoirs géographiques. Et donc, c'est à ce titre qu'on peut être intéressé de redécouvrir son quartier ou de découvrir la ville d'à côté. On n'a pas forcément besoin d'être de Villetaneuse pour suivre l'événement. Mais voilà, c'est une manière de découvrir ou de redécouvrir des lieux, des thématiques.
Parce que si on veut pouvoir bénéficier de cette nuit, c'est vraiment que la nuit ou ça peut être le jour quand même?
Alors, ça commence souvent, ça peut être toute la journée, mais généralement, ça commence en fin d'après-midi.
D'accord.
La plupart des événements commencent à partir de 6 heures. Ça ne se finit pas très, très tard. On ne va pas dire que ça va se prolonger jusqu'à 2 heures du matin. C'est souvent fin d'après-midi.
Ou c'est pas la traversée de Paris la nuit, quoi. Non, c'est pas non plus. D'accord.
Non, et c'est des événements courts. Hein.
Et alors, si je veux le trouver sur Internet.
Des catacombes ?
Comment ?
Même pas une petite descente dans les catacombes ?
Alors, pas cette année, mais l'année prochaine, peut-être, une idée pour vous proposer. En fait, il y a un site qui est dédié, qui s'appelle Geonight, sur lequel on retrouve tous les événements en France et même à l'étranger. On ne sait jamais si vous partez en vacances, c'est aussi possible d'y participer ailleurs. Et voilà, c'est entièrement gratuit, c'est non commercial et il n'y a pas besoin de s'inscrire.
Mais les géographes n'ont pas besoin de sous, alors ?
Pas pour ça.
Bon. Ok, bon, il reste à faire la petite rubrique sur l'agenda de Madame la Ministre. Et comme depuis quelques semaines, elle nous laisse sur notre faim, Madame, zut, j'ai un trou de mémoire, comme d'habitude, au mauvais moment, ça doit être l'émotion. Mais en tout cas, pas l'émotion grosso modo, elle n'a que des réunions de travail avec les membres du gouvernement. Elle voit Monsieur Larcher du Sénat et Madame Parly, ancienne ministre et présidente d'Air France.
C'est la ministre de quoi dont tu parles ?
C'est la ministre de la transition d'écologie.
D'accord.
Monique Barbu, voilà, j'avais un trou de mémoire, désolé. Donc effectivement, c'est de toute manière peut-être une chronique dont j'aurais pu me passer parce que franchement, il n'y a presque rien. Alors c'est quand même surprenant dans une époque formidable que l'on vit où je dirais qu'on a un peu l'impression que les problèmes écologiques sont pour être quotidiens. C'est le c'est l'électroencéphalogramme plat du côté de Roquechlore. Bon, ceci étant, on n'est pas là pour dire, pour persifler, dire des méchancetés. On va se passer une petite pause musicale.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
J'espère vivre, mais libre jusqu'à la fin comme vieux en Sicile. Uluki Luchi, doté d'un esprit dopé genre lucide. J'aime les mots comme Edouard Fabrice, les fait vivre comme Lucchini. Cash Fluo remplace le kiné, Lucchese, nouvelle sorte de hippie. Certes j'apprends des jeunes mais j'apprécie la présence de mes Shibani. Et de Big Boeing suicide, embrasser les deux buildings, ma crédulité, je les bannis. Mon rap explose comme secrète famille exposée devant public. Joe Lucas. Seul le beat purple adoucit les mœurs. Je vais prendre un raccourci. Prends le manque d'argent, endurcit les cœurs. Je l'avance jusqu'à minuit. Le bruit du spider, Glock ou Six Hour, menotte inspecteur, une terrasse pas peur. Seul le beat purple adoucit les mœurs. Mimille, parisienne et l'humeur. Ce n'est pas le blast que je respecte, mais celui qu'il porte. Et finalement, ce n'est pas lui que je respecte, mais ses actes que je valide ou pas. Autrement dit, ce n'est pas le quartier que je respecte, mais ceux qu'ils font vivre. Ceux qui résident, ceux qui tirent et ceux qui répliquent. Chaque jour, je me réinvente et chaque nuit, je me suicide. Aucun piège, m'imite. Ce que je t'offre, c'est une vivante mélodie pour tuer de faits divers, parfois horribles. Si ce n'est de trois sportifs, très peu de success stories qui remarquent une bouleversante de pureté rare, comme noirceur du signe ou ma fureur. Vite face à froideur de l'insigne. Plus pourri qu'un flic, pas de flic. Seul le beat purple adoucit les mœurs. Je vais prendre un raccourci. Prends le manque d'argent, endurcit les cœurs. Je l'avance jusqu'à minuit. Le bruit du spider, Glock ou Six Hour, menotte inspecteur, une terrasse pas peur. Seul le beat purple adoucit les mœurs. Mimille, parisienne et l'humeur. J'aime le débat, mais après moi, plus rien à dire. D'après la critique, le nègre au sombre teint est timbré. Sa rime aussi et son timbre est unique. On me croise en vélib, mais j'avoue qu'à trop motrice, Yves. Peux-tu derrière vite, je baisse la vitre, jette la cesse, écris, vive le tri sélectif. À cheval entre chin-chin et j'suis clean. L'adulte et l'ado, la hier pris le prix de l'ado. Elle vient des Caraïbes, à chaque arrivage les raïnes. Sur la table que du gros calibre. Et des piles de bif aussi grandes que mon neveu Naïm. Seul le beef purple adoucit les mœurs. Je vais prendre un raccourci. Prends le manque d'argent, endurcit les cœurs. Je l'avance jusqu'à minuit. Le bruit du spider, Glock ou Six Hour, menotte inspecteur, une terrasse pas peur. Seul le beef purple adoucit les mœurs. Mimille, parisienne et l'humeur.
Et bien nouveau. Revoici dans les arènes de l'écologie sur Aligre FM. Alors Armand, qui c'est que tu nous as déniché là, tu nous as fait découvrir?
Il s'appelle Joe Lucas.
Et alors
il fait du rap depuis au moins 4 ans je crois.
D'accord, bah écoute, c'est comme à chaque fois une découverte partagée. Eh bien Zoé, Paul, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et de cette question du foncier en ville, et puis peut-être de ces nouvelles pratiques de gestion foncière qui visent un petit peu à économiser le terrain, si on peut parler si simplement. Alors, lequel des deux veut commencer? Peut-être Zoé pour nous dire ce que c'est que l'Institut de la transition foncière et pourquoi transition.
Oui, tout à fait. Alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Donc l'Institut de la transition foncière, c'est quoi? C'est une association d'intérêt général qui réunit un certain nombre d'acteurs, de structures à la fois publiques, privées, associatives, académiques, qui travaillent globalement dans le monde de l'aménagement du territoire et de la préservation de l'environnement. Et l'objectif de cet institut, c'est vraiment d'accentuer la préservation des sols au sens sol vivant. C'est vrai que nous, on parle plutôt de sol que de foncier ou de terrain. accentuer cette préservation des sols dans les pratiques d'aménagement. Donc effectivement, le thème de cette émission, c'est la frugalité foncière, hein, qui fait écho à la sobriété foncière. C'est vrai que nous, on s'intitule transition foncière. En fait, cette transition, elle fait vraiment écho à ce passage d'une vision des sols très surfaciques, hein, le sol comme un support d'urbanisation, comme un foncier à construire.
Un mètre carré, quoi.
Voilà, tout à fait, un mètre carré qui va avoir un coût, etc. Le passage de cette vision surfacique à une vision beaucoup plus qualitative des sols. Donc nous, on s'intéresse vraiment aux sols comme des écosystèmes vivants qui ont à la fois, on va dire, une valeur instrumentale au sens où ils rendent un certain nombre de services écosystémiques pour la ville et pour l'habitabilité des territoires de manière générale, mais des sols qui ont également une valeur intrinsèque au sens où ce sont quelque part des patrimoines à la fois écologique et pédologique. Donc la pédologie, c'est le nom de la science des sols.
D'accord, oui, tout à fait. Bon, c'est une racine latine. Mais bon, ça va généralement avec la tarrière. Et c'est vrai qu'un moyen de voir si un sol est vivant, c'est essayer de planter une tarrière sur une surface de béton. On s'aperçoit vite que ça ne vit pas tellement, quoi. Et Paul, alors, vous... C'est donc Surface Plus Utile, c'est le nom de votre association, entreprise, cabinet d'urbanistes. Alors oui. Qu'est-ce que c'est que Surface Plus Utile ?
Alors, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Donc Surface Plus Utile, on est une association dont les bureaux sont situés dans le même couloir que ceux du studio d'Aligre FM. Et ceci est un hasard, c'est ça qui est assez incroyable, à Césure, donc dans le 5e arrondissement de Paris. C'est une association qui essaye de porter un plaidoyer pour favoriser l'utilisation des immeubles dans la ville à des fins sociales ou écologiques. Je m'explique, aujourd'hui, il y a beaucoup de besoins de la part d'associations, de la part d'usages à vocation écologique ou solidaire dans la ville. Et d'autre part, il y a plein d'immeubles vides, par exemple, ou plein de projets de nouvelles constructions. Et donc, nous, ce qu'on porte avec Surface Plus Utile, c'est l'idée de favoriser, de prôner des espaces économiques de transition, donc un parc immobilier dédié à ces occupations d'intérêt général, que ce soit dans des immeubles existants et pas utilisés pour leur donner une utilité sociale, ou en reconfigurant des lieux pour ce qu'on appelle de l'immobilier solidaire.
D'accord, donc c'est pas les friches urbaines, c'est pas cette notion de délaissé urbain.
Ça peut être dans des friches urbaines, ça peut être dans des immeubles abandonnés, ça peut être dans des projets urbains de requalification d'immeubles existants. On est en temps de zéro artificialisation nette, on n'est pas très pour les constructions neuves, mais ça peut exister parfois sur des sols déjà artificialisés aussi.
D'accord. Alors justement, on parle de politique foncière, mais bon, on est à Paris, dans un milieu qui est quand même un petit peu particulier. Alors j'avais préparé un quiz, mais bon, quelle est à votre avis la ville la plus dense d'Europe ?
Paris ?
Eh bien non, c'est Levallois-Perret. 27 000 habitants au kilomètre carré, qui dépasse effectivement Paris, qui n'est qu'à 21 000 habitants au kilomètre carré.
Comme quoi la quantité et la qualité ne se retrouvent pas toujours.
Voilà, c'est ça. Donc la ville la plus vaste, la capitale la plus vaste d'Europe.
Berlin.
Londres.
Et gagné. Londres, qui fait 15 fois Paris. Donc c'est là où quand je me dis, mais quand on parle de ville, au final, c'est quoi le périmètre ? Parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué. Parce que si on regarde l'agglomération parisienne avec 11 millions d'habitants, donc c'est pas tout à fait celle de l'Île-de-France qui en fait 12 millions. Donc sur l'agglomération parisienne, grosso modo, c'est le continuum. C'est, quand il y a, on est à... à 3900 habitants kilomètres carrés, donc une densité comparable avec celle de bien d'autres villes, comme Marseille par exemple, où par contre si on reprend la petite couronne qui est plus densément peuplée, on se retrouve avec pratiquement la même densité que Londres. Donc effectivement, si on parle de Paris intramuros, on est dans un cas très exceptionnel. Si on regarde, on dézoome un petit peu, comme on dit en géo, les choses se transforment. Donc, par contre, pour en revenir à cette question de surface à l'intérieur de Paris, donc c'est 105 km². Ça nous fait donc, et avec les 20 km² de Bois de Boulogne, ça nous fait 84 km² d'urbanisé. Donc ça nous fait la bagatelle somme de 84 millions de mètres carrés. Et combien de millions de surfaces bâties sur ces 84 millions, à votre avis?
Un cos de 3-4. Donc 8 fois 4, 32, 320 millions de mètres carrés.
Bon, en tout cas, c'est pas ce que m'a dit Mistral, parce que bon, j'ai pas cherché tout seul. Non, il me parle de 120 millions de surfaces bâties au total. Donc effectivement, on est quand même presque à un étage et demi. On couvrirait l'ensemble de Paris par, pas tout à fait deux étages, mais pas loin. Et là-dessus, bon, on a 77 millions de logements, 17 millions de bureaux, et combien, puisque Paul, tu en parlais, combien de millions, et je te laisse le dire, parce que je sais que tu connais la réponse, combien de millions de bureaux vacants?
Alors, pour l'Île-de-France, on estime à au moins 6 millions de mètres carrés de bureaux vacants. Donc des bureaux vacants, c'est des immeubles de bureaux vides qui n'ont aucun locataire, aucun utilisateur et donc aucune utilité sociale.
Alors pour Paris, tu avais peut-être une idée précise?
Non, j'ai pas l'idée.
Ah, 1,5 million. Okay. Donc on a quand même presque un bureau sur 10 qui est vide.
Ouais, ça me paraît un peu beaucoup, mais peut-être...
Bon, en tout cas, c'est les chiffres qui m'ont été transmis par l'intelligence artificielle, pas la mienne.
Ne faites pas forcément confiance à l'intelligence artificielle.
Oui, mais bon.
En tout cas, croisez vos sources, chers auditeurs et auditrices.
Ça nécessite d'être vérifié, contrôlé. Mais bon, en tout cas, ça donne quand même un ordre de grandeur. On a 10% du parc de bureaux vides, mais on en construit encore. C'est ça le...
Alors aujourd'hui, on construit plus vraiment de... Il y a la plupart des projets de bureaux, ils sont plutôt à l'arrêt. Après, oui, c'est possible qu'on en rénove, effectivement. Et de toute façon, la demande à l'intérieur, enfin dans Paris intramuros, continue à exister. Ce qu'on montre avec Surface Plus Utile, c'est que on est dans une période où on a atteint un seuil un peu maximal d'utilisation des immeubles de bureaux, parce que depuis le début des années 2020, les changements de comportement au travail ont changé, on fait de plus en plus de télétravail, on a de moins en moins besoin d'immeubles de bureaux parce que la démographie, la population active stagne, parce que la tertiarisation de l'économie, donc le fait que l'économie ait de plus en plus besoin de bureaux est elle aussi en train de s'essouffler. Et donc tous ces phénomènes macro structurels font qu'on n'aura plus jamais besoin d'autant de bureaux que ce qu'on avait construit avant. Et donc on a construit beaucoup, beaucoup d'immeubles de bureaux en Île-de-France depuis 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on en a construit trop et que donc se pose la question de l'utilisation et de l'utilité qu'on peut donner à tous ces immeubles vides en Île-de-France. Et donc c'est pour ça qu'avec Surface Plus Utile, on propose de leur donner, de donner à ceux qui, à tous ces immeubles vides qui n'ont pas forcément une utilité sociale ou qui ne peuvent pas forcément être transformés en autre chose, par exemple du logement, on propose de leur donner, de les réorienter vers des structures qui pourraient en avoir besoin, mais pas au même prix, avec des loyers est bien plus faible, mais qui défendront des objectifs sociaux, écologiques.
Alors ça peut être quoi ? Ça peut être
des associations, ça peut être des acteurs culturels, ça peut être des artisans. Je crois que l'Institut de la transition foncière a été ou peut-être est toujours installé dans un immeuble vide.
Aligre FM 93.1
a été effectivement, on n'y est plus, mais oui, effectivement, on a pu bénéficier de ce genre de dispositif. Oui.
Alors, et du coup, ça vous a été utile pour lancer l'activité ou pour...
Ah oui, tout à fait, parce que ça permet de fournir des surfaces de bureaux à des structures qui ne s'inscrivent pas forcément dans... on va dire un modèle économique qui leur permet d'avoir accès toujours à
des mobiliers trop chers.
Voilà, tout simplement. Et donc oui, c'est très utile. Et puis ça permet aussi de mélanger un certain nombre d'acteurs et de structures assez différentes.
Alors donc vous étiez où?
Paul, il fait les questions et les réponses.
Non, mais c'est pour illustrer, en fait, c'est plus facile.
Effectivement, on était dans un immeuble qui s'appelle les Jean Jaurès, à Jaurès, donc qui est géré par Plateau Urbain.
Voilà. Alors, donc, c'est aussi un tiers-lieu. Ça date de quand, les tiers-lieux ? Ça a été inventé quand ?
Alors, moi, je pense que les tiers-lieux, ça date de Babylone. Ça date de la première ville. Je pense que, voilà,
peut-être donc, dès qu'on solde un petit peu, c'est un tiers-lieu.
La tour de Babel, c'était probablement un tiers-lieu. On y travaillait, on y construisait des trucs, on y parlait plusieurs langues, on y habitait, on y mangeait. Voilà, à un moment, la tour de Babel a connu une crise immobilière aussi.
On ne sait pas trop comment ça s'est passé.
Mais en tout cas, non. Un tiers-lieu, je pense que voilà, c'est un lieu qui mélange plusieurs usages au sein d'une ville. Et donc, tout endroit qui mélange plusieurs usages et plusieurs usagers peut être considéré comme un tiers-lieu. On dit aussi un lieu hybride, donc un lieu qui mixe plusieurs fonctions.
Moi, j'ai cru comprendre que c'était un lieu qui était plus géré par les lois du marché, qui soit en solde, entre guillemets, ou bradé, ou moins cher d'une manière ou d'une autre.
Alors, avec la coopérative Plateau Urbain, à laquelle j'appartiens, enfin dans laquelle je travaillais et que j'ai co-initié avec d'autres, on revendique le terme de tiers-lieu solidaire pour parler des tiers-lieux ou des lieux hybrides qui, effectivement, parviennent à s'extraire du fonctionnement classique du marché immobilier, et donc à ne pas payer les mêmes loyers qu'un immeuble classique, et pour permettre de proposer des programmations plus solidaires, plus généreuses, entre guillemets, de la gratuité, des programmes sociaux, de l'accueil de personnes en situation de précarité ou d'événements culturels gratuits. Et donc, c'est effectivement ces tiers-lieux solidaires, ils ne peuvent exister qu'en dérogeant aux règles du marché immobilier classique.
Alors, c'est vrai que les associations peuvent avoir besoin de locaux, que les jeunes entreprises peuvent avoir besoin de locaux, mais ceux qui sont en manque de lieux, c'est souvent les gens qui sont en recherche de logement. Est-ce que ces tiers-lieux ou cette transition immobilière ou foncière peut participer à régler cette carence quand même de logement qui a un mal assez criant, quoi.
Alors, sur la carence de logement, je ne sais pas. Sur la carence d'hébergement de lieux, ça oui. Dans les tiers-lieux solidaires, on trouve justement certains lieux, pas tous, qui mixent donc l'accueil d'activités, d'acteurs culturels, d'associations, avec de l'hébergement d'urgence, l'accueil et l'hébergement de personnes en situation de précarité. Dans le livre qu'on vient de faire paraître aux éditions du Pommier, il y a justement l'exemple des 5 toits, une occupation temporaire à Paris 5e, de Maison Marceau, des Grands Voisins, donc différents tiers-lieux, souvent temporaires, donc qui n'ont duré que quelques années, mais qui effectivement parviennent à mixer des activités d'hébergement avec des activités associatives ou culturelles.
Parce qu'il y a une réalité parisienne, c'est aussi de voir quand même beaucoup de sans-abri aujourd'hui. Alors je ne sais pas s'il y a des recensements précis, mais il me semblait que Par contre, on avait réduit le nombre de places. Donc, l'État avait réduit les nombres de places d'hébergement de l'ordre de 2000, il me semble. Alors qu'il y a, on a 1,5 million de bureaux. Alors, Théo, je te laisse. Pourquoi dans une piole d'étudiants, c'est, si on fait grand luxe, c'est 15 mètres carrés, à peu près. Bon,
ouais, entre 15 et 20.
Ouais, allez, si on rendait compte le nombre de petits apparts qu'on pourrait faire avec, avec ces vacances. Alors, bon, bien sûr.
Alors, malheureusement, si c'était si simple de transformer des immeubles de bureaux en immeuble de logement ou résidence étudiante, on l'aurait fait depuis longtemps.
T'es
malheureusement,
sûr ?
Oui, c'est mon métier. malheureusement, c'est pas si simple pour des raisons de d'épaisseur des immeubles et qui font que dans ces millions de mètres carrés, y a plein de mètres carrés qui sont trop loin d'une fenêtre pour pouvoir en faire un logement. C'est pas si simple pour des questions de dimensionnement des tuyaux d'évacuation des eaux. Ça peut paraître banal, mais en fait, pour permettre à tout le monde de prendre sa douche
faire des sanitaires
à 7h
du tuyaux.
Matin, voilà, il y a ce qu'on appelle un pic de consommation dans un immeuble résidentiel qui n'est pas pareil dans un immeuble de bureau. Et comme on a construit ces immeubles de bureau vraiment à l'économie, eh bien les tuyaux d'évacuation des eaux ne sont pas dimensionnés pour accueillir ces pics de consommation du matin logement. Notamment. Donc en fait, ça pose des réels problèmes. Et ensuite, il y a aussi toute la question des équipements publics qui sont nécessaires pour accueillir des nouveaux habitants. Quand vous accueillez des emplois, donc des bureaux, vous n'avez pas besoin de crèches, de gymnases, d'écoles, de collèges. C'est le cas quand vous avez des logements. Et donc en fait, transformer un immeuble de bureau en logement, ça suppose d'avoir aussi des équipements à côté. Et ça, les communes ne les ont pas toujours et ne peuvent pas toujours les payer. Donc en fait, malheureusement, c'est pas si simple. Maintenant, nous, ce qu'on dit avec Surface Plus Utile, c'est que pour les immeubles qui ne peuvent pas être transformés en logement, eh bien, il y a des solutions, il y a des manières de les transformer en immeubles à vocation sociale et solidaire, en immeubles éventuellement qui mettent de l'hébergement.
Vous faites comment pour changer un petit peu les fonctions ?
Alors, nous, on ne fait pas parce qu'on est une association de plaidoyer. Donc, nous, on revendique et on promeut le fait que ce soit possible.
Faut le faire.
Voilà. maintenant, il y a justement des structures comme Plateau Urbain, des structures on peut citer Yes We Camp, on peut citer l'IVEO par exemple, pour ne citer que celles qui font de l'occupation temporaire. Ça, c'est pour Paris, mais il y en a partout en France. On peut citer Intermed à Lyon, Intercalaire à Toulouse, des structures qui arrivent finalement à occuper des bâtiments vides et à transformer leur fonction justement.
Alors qui peut faire, parce que bon, vous êtes là pour dire il faut le faire, éventuellement comment, mais qui peut le faire, quels sont les acteurs, est-ce que ça va être les maires qui vont pouvoir
tous les acteurs que je viens de citer là sont des la plupart du temps des associations ou des coopératives qui savent le faire. Alors après elles le font,
mais elles sont pas propriétaires des lieux,
avec l'accord des propriétaires des lieux qui la plupart du temps pour les immeubles de bureaux sont des bailleurs privés, des sociétés d'investissement ou des investisseurs, des acteurs institutionnels qui possèdent des immeubles vides. Ça peut être parfois aussi des collectivités, des acteurs publics ou des aménageurs qui possèdent ces immeubles de bureaux vides, mais c'est souvent quand même des acteurs privés. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est on essaye d'encourager ces acteurs privés à donner à ces lieux qui n'ont aucune utilité économique une utilité sociale.
Mais ils y retrouvent, parce que bon, ces acteurs privés, j'imagine, ils ont investi, ils ont payé, ils voudraient du retour sur investissement. D'ailleurs, ces bureaux qui sont vides, c'est des vieux bâtiments, c'est des trucs...
Non, ça peut être parfois des bâtiments neufs. Et en fait, effectivement, ils ont... Il y a de tout.
C'est une forme quand même de gaspillage urbain.
Alors, nous, on parle complètement de gaspillage immobilier. Et donc, voilà, parce qu'on a surproduit. Maintenant, effectivement, ils en attendaient les gens qui ont investi dans ces immeubles en attendaient une rentabilité qui n'arrivera pas.
Donc... On ne va pas leur dire... Donc, vous leur dites, bon, ben, monsieur, pas de chance. donner votre immeuble plutôt que...
Alors, c'est pas donner le, c'est pas donner le, c'est laisser des gens et des organisations qui en ont besoin et qui ne peuvent pas et qui ne peuvent pas se payer les loyers que vous attendez. Vu que personne ne sait payer ses loyers, laissez des organisations et des acteurs qui en ont besoin occuper les lieux pour pouvoir au moins les entretenir, payer les charges, etc. Et si un jour vous parvenez à relouer votre immeuble ou à le transformer, eh bien, il vous reviendra, vous en restez le propriétaire légitime. Évidemment. Donc ça, c'est l'occupation temporaire. Mais après, il y a aussi d'autres modes d'immobilier solidaire qui consiste à, par exemple, tenter de racheter les immeubles à leurs propriétaires en disant « Bon, ben voilà, vous aviez investi 100, peut-être que... »
Si je vous en donne 20.
Si je vous en donne 20, qu'est-ce que vous en pensez ? Et ça arrive. Et les investisseurs, c'est des acteurs économiques rationnels. Parfois, ils se disent « Bon, ben, entre ce truc qui me coûte ou si on m'en donne 20, et ben voilà, j'aurais perdu moins que prévu. Et pourquoi pas ?» Et en fait, il n'y a pas de problème. Je veux dire, là-dedans, ça fait partie de la vie économique.
Vous cassez le mythe de la solidité de l'investissement dans la pierre.
Alors effectivement, on avait sous-estimé le risque de l'investissement dans l'immobilier tertiaire. On pensait que c'était un investissement très peu risqué. En réalité, c'était plus risqué que ce qu'on pensait. Il y avait ce qu'on appelle une bulle immobilière qui s'est créée depuis 10 ou 20 ans sur la construction de bureaux. On n'a pas vu arriver, alors qu'on pouvait le voir arriver de très loin, le télétravail qui a commencé dans les années 2000. On n'a pas vu arriver
Le Covid, quoi.
Mais pas du tout, pas du tout. Le Covid a accéléré l'essor du télétravail, mais l'augmentation, elle était constante dans toutes les années 2010. La transition démographique... pareil, l'arrêt de l'augmentation de la population active, l'INSEE, ils n'ont pas sorti.
Comment ces gens qui
ça s'appelle
sérieux.
Une bulle. Ça s'appelle une bulle et c'est que des gens sérieux, mais qui, d'autre part, tout le monde avait intérêt à construire des immeubles de bureaux. Il y avait une sorte de petit aveuglement, peut-être, collectif. Une fois de plus, il faut pas jeter la pierre à tel ou tel acteur. Collectivement, on avait tous intérêt
En tout cas, ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a cette...
Aujourd'hui, ils existent. Qu'est-ce qu'on en
voilà,
fait ?
Voilà, c'est ça.
Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut leur donner
une utilité ? On va pas répondre
à
tout ce soir. On va pas réussir à trouver la solution miracle.
Nous, on propose de les sortir temporairement
du marché
pour permettre justement de les remettre dans un cycle d'utilité sociale.
Bon, vous nous ferez la liste, Paul, des réussites et des lieux qui ont accepté c'est un pari quand même d'oser se libérer d'une charge comme ça, de se dire on s'est planté. C'est vrai qu'on n'en voit pas souvent. Alors, j'imagine qu'une fois que c'est construit, c'est foutu pour les sols vivants.
Alors, bon, effectivement, les sols, c'est quand même, j'ai pu l'évoquer tout à l'heure, c'est quand même un patrimoine qui met énormément de temps à se constituer. Hein. Les sols naturels, généralement, en Europe, on dit qu'ils ont à peu près 10 000 ans, qu'ils mettent à peu près 10 000 ans à se construire. Donc, effectivement, on peut considérer ça comme une ressource non renouvelable, c'est-à-dire une fois qu'on a détruit un sol par l'artificialisation, par l'imperméabilisation, c'est difficile de revenir à l'état qu'on avait avant.
Oui.
Par contre, ce qu'on peut faire, et ce qui se fait de plus en plus, c'est des pratiques de restauration des fonctions des sols en ville, parce qu'il ne faut pas l'oublier que la densité, c'est vraiment crucial pour limiter l'étalement urbain, etc. Mais la densité, il faut qu'elle reste désirable, il faut qu'elle reste, qu'elle permette de maintenir des conditions d'habitat, d'habitabilité qui sont...
Pour que les choses soient bien claires, vous ne travaillez pas que sur Paris.
Non, pas du tout.
Votre périmètre d'action...
De plaidoyer aussi, on travaille à l'échelle globalement nationale. Après, on commence à travailler sur des sujets européens également. Mais oui, on travaille avec pas mal de territoires en France. Donc voilà, j'évoquais cette question de la renaturation des sols en ville, au sens où c'est vraiment important quand même de bénéficier d'espaces, ça a été évoqué en première partie d'émission, d'espaces de nature en ville. Et nous, on alerte vraiment sur le fait que cette nature en ville, ça ne peut pas être juste une végétalisation de surface, de façade, quelque chose de simplement décoratif, mais qu'on est vraiment sur une logique de retrouver des écosystèmes fonctionnels qui permettent à la fois de filtrer l'eau et donc de gérer les eaux pluviales, de limiter le risque d'inondation, qui permettent aussi de limiter le risque d'îlots de chaleur urbains, qui permettent pourquoi pas de planter. Alors évidemment en ville, les questions d'agriculture urbaine sont un peu plus compliquées, mais voilà, on a tout un tas de services écosystémiques qui sont associés à ces espaces de nature en ville, et les sols jouent un rôle vraiment fondamental là-dedans. Pour autant, évidemment, lorsqu'on a le choix entre artificialiser et préserver un sol, nous, on encourage vraiment à préserver un sol en place, au sens où...
Mais cette gestion, ces nouvelles politiques foncières peuvent pas être identique dans une ville comme Paris, où on le disait tout à l'heure, on a 20 000 habitants kilomètres carrés, et dans une ville comme Marseille, où on n'en a que 3 500, sans parler d'autres communes de taille plus petite, quoi. Donc, comment vous réussissez à... Donc, j'imagine tout un éventail de politiques, quoi. Ça peut pas être la même chose.
Ah oui, non, mais bien sûr. Nous, on insiste vraiment sur l'importance de développer toute une ingénierie territoriale, justement, pour mettre en place des politiques de sobriété foncière, de transition foncière, qui soient vraiment territorialisées.
Ça s'inscrit dans quoi ? Dans le plus ? Parce qu'on ne dit plus le poste, comme à mon époque.
Alors, effectivement, d'un point de vue, si on reparle du zéro artificialisation net qu'on a évoqué tout à l'heure, le zéro artificialisation net, il se décline à différentes échelles. Là, il a été décliné au niveau régional, donc au niveau des SRADET, ils ont été mis à jour avec ces objectifs de zéro artificialisation net. Ensuite, il y a une application qui est en train d'être faite au niveau des SCOT, et ensuite, tous ces objectifs-là,
Les auditeurs qui ne seraient pas des initiés à ces acronymes, un STRADET, un SCOT...
Globalement, c'est des documents de planification à différentes échelles. Donc, au niveau régional, ça a été fait. Les SCOT, c'est un niveau intermédiaire entre les intercommunalités et les départements. Donc là, c'est en train d'être mis à jour au niveau de cette échelle-là. Et ensuite, l'idée, c'est que ces objectifs soient vraiment précisés au niveau des plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Donc effectivement, on a une précision de ces objectifs. Après, nous, ce qu'on met en avant avec l'Institut, c'est que les objectifs purement quantitatifs et surfaciques de cet objectif ZAN, ils ne suffisent pas à garantir ces conditions d'applicabilité. C'est-à-dire qu'on a un cadre réglementaire qui se met en place, et c'est très bien, pour limiter l'étalement urbain. Après, ce qu'il faut, c'est donner les moyens aux acteurs des territoires, donc aux collectivités, mais aussi aux opérateurs privés, etc., de mettre en place des politiques de sobriété foncière qui soient vraiment...
Vous nous détaillerez tout ça, Zoé, dans quelques instants. On va passer à la deuxième pause musicale. Armand.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Solidarité humaine dans la terre gronde, dans ces hommes qui sauvent des vies, des amants, des bombes au risque de ne plus voir leur famille. Je me vois dans le dévouement de médecins sans frontières, soignant des innocents sous des tentes militaires, et qui ont des infos qui ne parlent que de guerre, malgré ce qu'ils peuvent dire, il y a encore des bombes sur terre. La paix intérieure, c'est ce qu'il y a de plus cher. La noblesse d'un lourd ne soit pas la lueur de sa crinière. Je me vois dans ces actes de bravoure, de courage, de personnes qui survivent, qui se tapent, qui assument leur handicap. Avec dignité, mets le cap vers l'avenir. Laisse-toi emporter par les flots. Suis ton destin comme un nomade, suis son troupeau à la recherche d'une source d'eau.
Il y aurait toujours mais c'est dans le coup que dans le meilleur du monde. Pas que l'on puisse écrire, c'est dans le coup que dans le meilleur du de l'anonymat. Les vrais héros de ce monde, ici même autant que loin là-bas, par des peurs qui se sauvent. Moi je dis lumière sur ceux qui sont toujours là. Le meilleur du monde c'est quand on t'entend.
chaleureux comme un repas en Palestine. Créative, ambitieuse comme la Chine. Elle est chrétienne, juive et musulmane. Colorée comme les paysages de Tahiti. La terre est belle comme les filles de Bali. Me vois surfer sur les vagues d'Australie. Le dimanche dans un mariage au Mali. Elle est hantée là-bas en mini-jupe en sari. Dans une jeep touristique en safari. J'kiffe ses éclats de rire quand ça charrie. Innocence, morceau, c'est sa plaidoirie. Y'a de l'espoir sous le cri des nouveau-nés.
Eh bien, nous voici revenus dans les arènes de l'écologie sur Aligre FM. Et on attend la désannonce d'Armand. Alors, c'était qui cette,
C'est Corneille avec TLR.
Ah, Corneille. Oui, ça me dit quelque chose. Mais bon, on en apprend tous les jours. C'est ça qui est formidable. Oui, alors, on était en plein débat avec Zoé sur la transition foncière, comment réussir à maintenir des sols vivants. Alors, grosso modo, c'est les outils des élus, c'est par le plan d'occupation. Alors, non, on ne dit plus comme ça maintenant. Le plan de... C'est-à-dire quoi, le PLU, alors ?
Plan local d'urbanisme.
Ah, d'accord.
Donc, ça, ce sont effectivement les documents de planification que peuvent utiliser les collectivités. Après, nous, ce qu'on met en avant, c'est aussi la marge de manœuvre que peuvent avoir directement les opérateurs à l'échelle du projet, donc vraiment les porteurs de projet.
Dans sa parcelle, il peut te faire des choses.
Voilà. Et en fait, ce qu'on met en avant, c'est l'importance d'interroger, ça a été interrogé tout à l'heure, la question du modèle économique d'une opération. Parce qu'actuellement, clairement, c'est beaucoup plus cher de faire du renouvellement urbain, de faire de la densification, de refaire la ville sur la ville, que de construire en étalement urbain et de faire de l'artificialisation des sols. Ce qui construit la valeur d'un terrain, c'est sa capacité à être construite, donc à détruire le sol qui est sur cette parcelle. Nous, ce qu'on essaye entre autres d'interroger, c'est comment est-ce qu'on peut visibiliser le fait qu'il y a des coûts cachés, qui sont concrètement les coûts de l'artificialisation des sols, les risques en fait qui vont être pris en artificialisant les sols, c'est-à-dire les risques d'inondation.
Donc là, on est plutôt en périphérie. Ce qu'on voit aujourd'hui, les villes grossissent par leur périphérie et vont grignoter les sols agricoles. On parle de la perte de milliers d'hectares par an. Bon, j'ai pas le chiffre en tête,
oui.
Mais
ouais, c'est pareil quand tu remplaces un pavillon et son jardin, ou cinq pavillons et leur jardin par un immeuble collectif et un parking, bah quelque part, tu as aussi artificialisé les sols. Ce n'est pas que les terres agricoles, il me semble.
Oui, effectivement. Alors après, dans la classification du zéro artificialisation net, il y a toute une nomenclature qui est un peu compliquée entre ceux qui sont considérés comme artificialisés ou pas artificialisés. Mais c'est vrai que si on parle simplement de consommation d'espace, donc les ENAF, c'est les espaces naturels, agricoles et forestiers, on a à peu près 20 000 hectares de ces espaces qui ont été artificialisés pendant la dernière décennie. Ce qu'on constate, c'est que cette consommation d'espace, elle est sans rapport avec la démographie, oui, qui certes augmente, mais beaucoup plus lentement. On a parlé tout à l'heure des enjeux d'accès au logement, etc. Ce qu'il faut quand même, ce sur quoi il faut insister, c'est que la consommation des sols augmente beaucoup plus vite
donc
que l'augmentation des populations.
On a une surconsommation des sols.
Oui, effectivement. Mmh.
Donc c'est plutôt le... Paul ?
Et des mètres carrés. Ouais. On consomme trop de mètres carrés et on les gaspille.
Ouais, c'est ça.
Enfin, je sais pas si vous
une espèce
ce vocable.
D'obésité immobilière, ou je ne sais comment dire la chose, mais
tout à fait. Si ce n'est que nous, on essaye de réfléchir aussi en termes de mètres cubes et pas simplement de mètres carrés consommés, mais bien on ne gaspille pas seulement de la surface, mais on vient vraiment consommer des sols qui sont des écosystèmes, écosystèmes vivants.
Parce que la fameuse réforme ZAN, le zéro artificialisation, a suscité pas mal de polémiques. Mais on a un peu l'impression que, que c'est un dialogue de sourds. C'est vrai que ça n'a pas été très, très bien éclairé, ce sujet-là.
Oui, effectivement, il y a eu beaucoup de réticences qui viennent aussi du fait que les acteurs ont du mal à voir concrètement comment faire. Au sens où, effectivement, le modèle économique de l'aménagement, il est quand même basé sur le fait de venir artificialiser des sols. Donc nous, ce qu'on essaye d'interroger, c'est de se demander comment faire évoluer ce modèle économique et comment intégrer dans... les bilans d'opération des projets, donc vraiment le modèle économique du projet en tant que tel, la dette écologique qui va être créée par l'artificialisation des sols. Quand on parle de dette écologique, c'est un concept qui est utilisé en comptabilité écologique. On parle vraiment des coûts futurs de
parce que quand on classe une parcelle en zone constructible, c'est pour le proprio, c'est le jackpot, ça, c'est x10.
Quoi. Bah oui, tout à fait. Tout à fait, mais pourtant, derrière, si on fait la somme de tout ça, ça veut dire plus de risques d'inondation, plus de risques d'îlots de chaleur urbain.
Pour la société, c'est pas le jackpot.
Voilà, oui. Donc l'idée, c'est vraiment de venir pour les assurances non plus, mais bon. Et de les intégrer dans les modèles économiques. Donc tout ça, c'est des réflexions en cours. Mais par exemple, une option, ça pourrait être d'essayer de quantifier sur des projets la dette écologique qui va être produite par l'artificialisation supplémentaire, mais aussi la dette écologique qui va être éviter ou qui va être réduite par justement des pratiques de sobriété.
Alors cette notion de dette écologique, c'est un terme qui n'est pas très vieux, je ne l'ai pas souvent entendu, mais ça se concrétise comment
Très concrètement, on va essayer de calculer. Alors pour mettre les choses au clair, l'idée c'est pas de venir donner un prix aux éléments de la nature ou aux services écosystémiques. On n'est pas dans une monétarisation du vivant. Par contre, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'anticiper les coûts futurs de restauration de ces espaces. Donc si par exemple, au jour J, on artificialise un espace et que dans 80 ans, on va vouloir le renaturer, combien ça va coûter de restaurer un sol fonctionnel à cet endroit-là? Combien ça va coûter de restaurer la fonction d'infiltration de l'eau, la fonction de réservoir de biodiversité, la fonction de réservoir de carbone, etc. L'idée, c'est... Alors, évidemment, tout ça, ça se fait avec des experts du sol, des économistes, etc., qui vont chercher à approximer ces coûts-là. Et l'idée, c'est de se dire, concrètement, si on essayait d'avoir une comptabilité plus globale d'un projet, on pourrait ainsi quantifier le coût supplémentaire entraîné par l'artificialisation et au contraire le coût évité entraîné par des pratiques de sobriété foncière.
Bon, bah écoute, Zoé, on va attendre. Si on veut en savoir plus sur la transition foncière, sur cette dette écologique, il y a moyen d'aller sur votre site internet,
oui,
j'imagine.
Bien sûr, n'hésitez surtout pas à aller consulter notre site internet. Donc, si vous tapez Institut de la transition foncière sur tous les moteurs de recherche, vous devriez trouver nos différents outils.
Ok, bon, bah comme à chaque fois, on va être obligé de terminer. C'est trop court. On n'a pas réussi à aborder tous les sujets. Bon, il me reste naturellement à remercier Armand Gury qui a été quand même formidable ce soir, maîtrise des boutons et des sons parfaits. Merci Paul Citron de Surface Plus Utile et puis Zoé. Alors parce qu'il y a eu un changement, c'est Zoé de redonne-moi ton nom.
Oui. Rimbaud.
Voilà, c'est ça. Et puis la semaine prochaine, l'émission portera sur la menace que connaissent les scientifiques, mais pas que, donc aux USA, mais aussi en France. Manifestement, ils sont bien à mal, mais on parlera aussi, j'imagine, des journalistes qui sont eux aussi pris dans la tourmente, que ce soit en Iran, au Liban et dans bien d'autres villes. Bon, et puis tout de suite, je crois que c'est Jazzland avec Jean-Marc Gélin qui va prendre la suite sur cette magnifique antenne qui est Radio Aligre. Merci, à la semaine prochaine.
Merci.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.